Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode du Radio Podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale sur la ligne. Vous pouvez nous trouver sur toutes les bonnes plateformes de balado. On est également diffusé à BPM Sport tous les lundis soirs et également en reprise le week-end. D'ailleurs, on est beaucoup écouté le week-end. Je vais vous dire, je m'en fais beaucoup parler des gens qui nous disent qu'ils nous ont entendus à la radio. Puis c'est toujours le fun de s'en faire parler. Et je veux vous faire des salutations, mes chers amis, là, avant d'aller plus précis dans les salutations, mais j'ai croisé Donald Beauchamp, avec lequel je travaille ici et là à la GMQ, ancien directeur de communication du Canadien de Montréal. Et il est un fan de l'émission et il aime beaucoup ce qu'on fait. Alors, ben merci, Donald, d'avoir fait les bons mots quand ça vient quelqu'un de beaucoup d'expérience comme ça là, dans le monde des médias et des communications. Ben, c'est toujours ben, le fun à recevoir. Émission un peu différente aujourd'hui. Nicolas Richard n'est pas là, mais on a des remplaçants de luxe. Mais d'abord, j'y vais avec Hugues Léger. Comment te portes-tu en cette action de grâce? As-tu une petite journée de congé ou beaucoup de travail? Je suis sûr que tu as quelques dossiers sur le site que tu vas travailler.
Difficile d'avoir des journées 100% de congé, mais on en profite quand même un petit peu. On s'est fait un super bon repas hier. Un peu ébranlé par les événements du Moyen-Orient, évidemment. Là, on ne peut pas penser à ça aujourd'hui. La pluie, c'est le thème dominant du week-end, on dirait, puis ça me fait penser justement à un nouveau centre de tennis intérieur qui a été ouvert, inauguré à Waterloo à la fin de la semaine dernière. Donc, nouvelle bulle dans le cadre du programme Rogers Infrastructure, une bulle qui va couvrir 4 terrains, donc au centre de M. Godbout. Donc, un bel ajout de terrain intérieur pour la région. On sait qu'il n'y en a pas tant que ça dans la région entre Granby et Sherbrooke. Là. Donc, on est bien content de cette nouvelle-là pour la région.
On veut se faire un mandat de parler aussi de plus en plus de tennis de monsieur et madame tout le monde, je vais dire comme ça, de tennis civil, parce que oui, notre mandat, c'est de parler de tennis, notamment professionnel, mais la base, elle est sur les gens comme vous qui jouez et qui êtes bons, contrairement à moi avec une raquette où c'est beaucoup plus compliqué. Isabelle, je te constate dans ton chalet, ou est-ce que tu vas prendre une belle journée un peu plus relaxante, un peu plus reposante, ou te connaissant toi aussi, tu as pas mal de projets à côté sur lesquels tu vas travailler aujourd'hui quand même?
Non, des journées de repos, ça se fait rare. C'est une denrée rare. Vous me direz où est-ce que je peux en acheter? J'aimerais ça en acheter. Mais je pensais pouvoir profiter de cette journée pour aller faire quand même un petit peu de coups de raquette, malheureusement. Il n'y a pas de petit coin de paradis. Donc, on est à l'intérieur. On ne peut pas jouer au tennis. Mais hier, on en a profité en famille, fait des corvées. On appelle ça, à chaque grâce, on en profite pour recevoir les gens, vider le quai, ramasser les feuilles, faire du bois, faire du feu. Donc, ça a été quand même une belle journée, somme toute. Pas trop de pluie hier. Chanceux ici. On a eu une accalmie.
Ouais, c'est. Ouais, ben ça, tant mieux si tu peux profiter pas trop. Puis toi, t'es dans quel coin déjà? Est-ce que t'es dans le coin de Morinette ou t'es dans le canton de l'Est? Je suis plus sûr.
Je suis à Saint-Adolphe dans
le. Ah, c'est ça. T'es à Saint-Adolphe, c'est vrai. C'est très beau, Saint-Adolphe d'Howard. De Saint-Adolphe, ben, on va aller faire un tour dans les cantons de l'Est. C'est tout frais retourné du Saguenay. Abraham, tu vas être avec nous une partie de l'émission. D'habitude, tu viens nous présenter ton segment en toute fin d'émission, mais aujourd'hui, on va te garder une bonne partie de l'émission. Comment te portes-tu? Petite journée de congé, pause d'école pour toi, pas de jonquière, on est à la maison à Farnham.
Ben exactement, Alex, ça fait du bien, enfin une journée de congé, parce que les derniers mois ont été assez ardus, surtout avec le début du cégep, mais je suis bien content de venir vous parler aujourd'hui, puis parler de tennis, c'est comme des vacances, fait que j'ai bien hâte.
Ah ben ça, on est très d'accord avec toi, c'est pas difficile pour personne ici de jaser de tennis, et pas de congé à l'Action de grâce pour personne ici, et ben justement, parlons de tennis puisque c'est notre mandat, et c'est ce qu'on va faire pour à peu près la prochaine heure, et commençons avec ce qui s'est passé la semaine passée. Ben, c'est bizarre là, parce que j'en parlais la semaine passée, on est comme en Asie présentement et on gère des mi-tournois et des tournois, des mises à jour de tournois pas mal plus que des résumés de tournois. Mais allons voir ce qui s'est passé. Bon, à Pékin, je vais commencer du côté des hommes parce que Sinner Hugues est en train de connaître les plus grands moments de sa carrière. Et il a été complètement spectaculaire la semaine passée avec des victoires plus que respectables.
Nouveau numéro 4 mondial, entièrement mérité. On se souvient quand dans notre bilan de fin de saison 2022, pour moi en tout cas, c'était une déception au Sénat parce qu'on le voyait monter au classement l'an passé. Ça a été plus compliqué. Il se tenait autour de la 10e position, 11e, 12e. Mais là, c'est parti. Des victoires en demi-finale contre Alcaraz en 2-7, contre Medvedev en finale, un match qu'il a extrêmement bien géré. Grosse semaine la semaine dernière au ATP 500 de Pékin. Et Sénat est vraiment le joueur en forme du circuit en ce moment. C'est dommage qu'on ne voit pas Djokovic sur le circuit asiatique parce que j'aurais bien aimé voir des match-ups en Sénat et Djokovic. Mais écoute, une victoire en demi-finale, 7-6, 6-1 contre Alcaraz, c'est quand même pas tout le monde qui peut faire un 6-1 Alcaraz. Alcaraz, mentionnons-le, qui était quand même tapé à la cuisse. Je ne sais pas si ça l'incommode, là. Il n'en a pas vraiment parlé, mais je le souligne quand même. Et une victoire en 2-7 exceptionnelle de 7-6, 7-6 contre le meilleur joueur sur dur. Je pense qu'on s'entend là-dessus, qui est Medvedev, là, peut-être avec Djokovic, mais c'est un maître sur terre battue qui est maintenant en haut de 60 victoires cette année sur le circuit. Donc, une bonne année pour Medvedev. Sinner qui remporte 7-6, 7-6. Grosse semaine pour Sinner la semaine passée.
Ouais, tu sais, de battre Alcaraz et de battre Medvedev dans la même semaine, honnêtement, c'est pas gênant comme on dit. C'est déjà quand même un 10e titre pour Sinner qui n'a que 22 ans.
Ouais.
C'est un début de carrière spectaculaire pour Yannick Sinner. Il est dans la classe des grands et Félix, il a à peu près le même âge. Je ne vais pas faire de comparaison boiteuse et on y reviendra. Mais Sinner, il connaît tout un début de carrière. Il ne faudra pas se surprendre avec les résultats qu'il a présentement, qu'il remporte peut-être un jour un grand chelem. Enfin, on l'a vu passer très près, ça c'est certain dans le passé. Il est capable de rivaliser et de battre les meilleurs. Il l'a prouvé cette semaine une fois de plus. Et c'est un titre bien mérité, comme je disais. C'est un 10e titre pour lui. En fait, c'est un 11e titre pour lui. Il avait déjà gagné à Toronto un peu plus tôt cette année quand même. Alors, quelle performance là, de Sinner cette année. Et rappelons que, écoute, il est passé très près de faire les quarts de finale au US Open, un long match contre Zverev. Il connaît toute une saison. Oh oui. Abraham, comment tu vois ses performances de Sinner? Est-ce qu'il est en train de se former un nouveau Big Four sur le circuit de l'ATP? Est-ce que Sinner va en faire partie? Et je te lance comme ça, là, je te mets sur la sellette.
Ben oui, mais je pense que c'est gros. C'est quand même gros de dire un Big Four, mais ça commence à varier beaucoup au sein du top 10 masculin. Là, là c'est Sinner, là, Alcaraz, on le voit un petit peu moins depuis sa victoire à Wimbledon, malgré qu'il est encore là. Ça varie beaucoup entre les joueurs. Mais je voulais dire que c'est le fun pour Yannick Sinner, parce que nous, en 2022, on l'avait interviewé au podcast quand il était à Montréal. Mm-hmm. Cette année, il a gagné le tournoi canadien à Toronto. Puis là, à partir de ce succès-là, il continue d'être sur la bonne voie. Fait que, est-ce que c'est vraiment le fun comme résultat? Je suis vraiment content pour Yannick Sinner. Puis là, il est encore à Shanghai. On peut voir si la Chine va lui porter fruit.
Ouais, ben, en fait, la saison sur dur lui porte fruit. Comme tu dis, ben, il avait fait un bon résultat également, une demi-finale à Wimbledon. Il connaît, disons-le, depuis Wimbledon, une saison complètement spectaculaire, Yannick Sinner. Alors, un 10e titre pour lui, comme je le mentionnais, et puis déjà un 3e cette année après Toronto et Montpellier. Quelle saison il connaît, je le rappelle. Et finale à Rotterdam et Miami également. Et des demi-finales à Wimbledon, Indian Wells et Monte Carlo. Là, vraiment, là, dans les gros tournois, Yannick Sinner, il performe magnifiquement bien. Alors, chapeau à l'Italien qui continue de nous impressionner. Une qui continue de nous impressionner, et c'est également du côté de Pékin, eh bien là, c'est le grand retour en force de Swiatek. On l'a dit, elle n'a pas connu une saison aussi dominante que celle de l'année passée, Hugues, mais elle connaît encore une méchante bonne saison, Iga Swiatek, qui remporte le tournoi à Pékin également de son côté. Super performance, elle a battu Coco Gauff au passage dans ce tournoi.
Ouais, t'en parlais la semaine dernière, qu'elle était peut-être un peu motivée par ce qui se passe en ce moment, là, avec Coco Gauff qui prend beaucoup d'espace, Sabalenka qui est rendue numéro 1, ben, elle a prouvé qu'elle était toujours là et qu'il fallait faire attention à elle. Elle se rapproche à 600 points seulement de Sabalenka au classement de ce matin, WTA. Elle sort Coco Gauff quand même nettement 6-2, 6-3 en demi-finale. Là, c'est une victoire solide, très solide. Et Samsonova en finale aussi. Donc, je pense que Coco Gauff là, est dans un mode... elle a gagné 6-2, 6-2 sa finale. Je vérifie en même temps que je vous le disais. C'est deux victoires faciles en demi-finale. et en finale pour Swiatek. Donc, je pense qu'elle sera surveillée pour la fin de l'année, pour les finales de la WTA aussi. Elle veut finir en force. Et elle pourrait terminer l'année encore au numéro 1. Donc, attention à Iga Swiatek, là, qui a aussi amélioré son jeu dans certains respects.
Oui, tu sais, quand tu penses que Samsonova, ben, c'est la finaliste à Montréal cette année, qui est un tournoi WTA 1000 et que tu là-bas avec une simplicité déconcertante comme ça, ça te dit à quel point Swiatek elle est spectaculaire. En fait, son match le plus compliqué, elle a détruit à peu près tout le monde dans le tournoi, incluant Coco Gauff. Son match le plus compliqué, ça a été contre Caroline Garcia. Et là, ça a été très, très, très compliqué. 3-7, dont 2 particulièrement serrés. Mais elle a ouvert la machine au troisième set avec un 6-1. Mais Garcia, elle est une joueuse redoutable également et ça a été plus compliqué pour Swiatek. Mais pour le reste, là, entre guillemets, les autres n'étaient pas au même niveau pour elle. Isa, je te lance sur Swiatek. Encore une saison complètement spectaculaire pour elle. Est-ce que tu t'attends à la revoir revenir numéro un mondial d'ici la fin de l'année?
Bien, clairement, c'est son intention. J'ai eu la chance de regarder un peu la partie justement contre Caroline Garcia, puis il me semble qu'il y a eu un momentum. Le fait qu'elle est revenue, qu'elle a gagné ce match-là, ça lui a donné le vent dans les voiles. Fait clairement qu'elle se dit elle est là pour pouvoir reprendre sa place de numéro un. Ça ne sera pas facile. Je trouve qu'on a des beaux duels. Présentement, beaucoup de joueuses qui font de l'excellent tennis, bon, dépendamment des tournois. Bon, Coco Gauff, on l'a vu beaucoup, ça a été énormément de belles performances. Après ça, bon, Swiatek, là, on a Sabalenka, Rybakina aussi qui était là, Garcia. Fait que je trouve que c'est intéressant à regarder ce qui se passe du côté du tennis féminin.
Ouais, écoute, c'est une des joueuses dominantes des dernières années. Et pour vous donner un exemple d'à quel point elle est spectaculaire, Swiatek, dans les deux dernières saisons, elle est la première joueuse depuis Serena Williams en 2014-2015 à remporter plus de 5 titres dans 2 saisons consécutives. Alors, ça fait presque 10 ans que ce n'est pas arrivé. Et quand on regarde dans le dernier centenaire, ben, il n'y a que 5 joueuses qui ont réussi à faire cet exploit-là. Et vous allez voir que ce sont tous des joueuses qui ont été numéro 1 mondial. Serena Williams, j'en parlais. Caroline Wozniacki, Justine Henin, Lindsay Davenport et Venus Williams. Ce n'est pas les dernières venues. C'est pas facile de gagner 2 saisons, d'avoir 2 saisons aussi spectaculaires. Alors, chapeau une fois de plus à Swiatek qui remporte le tournoi de Pékin. Elle avait remporté le Roland-Garros un peu plus tôt cette année. Elle a gagné à la maison en Pologne également. Doha et Stuttgart, les autres tournois. Une autre saison phénoménale. Et moi, comme j'en parlais, Isa, je ne serais pas surpris non plus de l'avoir numéro 1 mondial d'ici la fin de la saison. Là, on a parlé des gens qui ont eu beaucoup de succès la semaine passée. Il y en a un pour lequel c'est un peu plus compliqué et ça continue de l'être. On va en parler en 2 temps. Je veux qu'on parle d'abord et avant tout de son match contre Fukovic avant qu'on aille sur son classement. Hugues, Félix Auger-Aliassime, match à l'histoire, à l'image de sa saison, un match accroché, un match où il se bat, mais un match où il sort une fois de plus défait.
12e défaite à son premier match dans un tournoi cette année. Tu l'as dit la semaine dernière aussi, il n'a pas gagné 2 matchs de suite depuis Indian Wells au mois de mars. C'est quand même énorme pour un joueur de sa trempe. Pour Félix, bon, on avait parlé de sa défaite contre Rune la semaine dernière à Pékin. Là, on est à Shanghai, évidemment, le match s'est joué vendredi. Tu as raison, on est un peu décalé, c'est un peu bizarre là, ces séquences de tournoi-là. Donc, il jouait son match de deuxième tour contre Fukovic, un match on se disait qui était prenable, mais je vous disais la semaine passée, moi je suis toujours inquiet pour ses premiers tours. Effectivement, à l'image de souvent ses premiers tours, premier set accroché au tie-break, il échappe finalement 7-6, gagne le deuxième 6-4, perd le troisième 6-3. Fukovic, qui encore une fois nous a montré tous ses muscles à la fin du match, comme il aime bien le faire, c'est une image qu'on voit souvent avec Fukovic. Mais les joueurs, Alex, sont motivés et ont confiance contre Félix. Ils n'ont pas peur de Félix en ce moment. Tout le monde se dit, je peux faire une performance qui va améliorer mon classement aujourd'hui. Et c'est ce que Fukovic a fait. Donc, une 2e défaite à un premier match pour Félix cette année. Pour un Masters 1000, il faut le souligner. On le répète, il y a 1000 points à défendre au mois d'octobre. Ça ne commence pas de la bonne façon. Donc, la situation devient très problématique pour Félix, selon moi. Là. Il va avoir une dégringolade, on le sait, au classement. Il risque de se retrouver autour de la 40e place à la fin du mois. Mais très hâte de voir les prochaines semaines et l'entre-saison. Je reviens sur ce qu'on a dit il y a une semaine, parce qu'il faut en reparler, je pense. Il y a des décisions qui vont devoir être prises. C'est pas anodin. Il peut pas juste dire « je joue pas mal, je reste positif, ça va bien se passer ». Il y a des décisions à prendre, je crois, dans le camp de Félix dans les prochaines semaines. Ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. Il y a eu très peu d'éclairs encourageants durant la saison. Et c'est triste et c'est inquiétant. Et voilà, donc voyons voir pour la fin du mois d'octobre. Il restera la Coupe Davis pour se reprendre. Espérons qu'il sera sélectionné. On ne le sait pas encore. Ça n'a pas été annoncé. Mais il sera disponible normalement pour jouer en Coupe Davis. Et évidemment, on sait qu'on sera en phase finale à la fin du mois de novembre.
C'est drôle parce que depuis le début de la saison, on savait que le stretch du mois d'octobre et le mois de novembre, les points seraient compliqués à défendre. On le savait. Mais on se disait, s'il peut aller combler quelques points ici et là durant la saison, aller chercher plus de points dans tel tournoi, il pourra peut-être combler et se mettre un peu moins de pression pour rester dans le haut du classement d'ici la fin de la saison. Mais là, non seulement il va avoir beaucoup de pression, mais c'est difficile d'avoir confiance que la machine va repartir. Et je sais ce que tu sous-entends parce que ça fait quelques semaines qu'on en parle, Luc, mais il est patient présentement. Évidemment, nous, on juge de l'extérieur. Là. Il est le seul qui a toutes les informations. Est-ce que lui se dit, c'est moi l'unique responsable de ce qui se passe, ce n'est pas mes coachs, parce que ce que tu entends, c'est que il y a bien des joueurs qui auraient fait le ménage dans leur entourage. Peut-être que lui se dit, c'est à moi de trouver des solutions et mon entourage, il est correct, c'est moi qui ne va pas bien, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est le passage le plus difficile de toute sa carrière. Chez les juniors, il rossait tout le monde, il rinçait tout le monde. En début de carrière, il a connu un début de carrière exceptionnel. Il n'y a personne qui va être surpris si Félix gagne un tournoi du Grand Chelem, mais il reste que les derniers mois, voire la dernière année déjà, c'est plus que compliqué. C'est des résultats de joueurs, je vais le dire comme ça, au-delà de la 100e place mondiale quand tu passes pas un premier match.
C'est ça. C'est les résultats d'un joueur qui serait nouveau sur le circuit, ce qui se passe avec Félix en ce moment. Il tente d'aller chercher une victoire ou deux ou trois, mais non, on parle d'un joueur top 15. Là, donc, c'est ça, où je vois qu'il y a un problème important. C'est la pire séquence, justement, depuis sa première année où il est arrivé sur le circuit en 2018. Et pourquoi je parle de son entourage? Parce que pour moi, ses enjeux, ils sont pas techniques, ils sont tactiques. Et c'est là que si un coach peut avoir une influence sur ton jeu, et c'est là où je me dis, il y a peut-être des questions à se poser là, sur comment il aborde ses matchs, comment tactiquement il joue en ce moment, parce que ce n'est pas sa technique qui fait défaut en ce moment, c'est sa tactique.
Ouais, je sais même plus comment analyser. Au-delà de ça, je veux dire, c'est ça. J'étais un peu sans mots, puis c'est un peu triste. Puis tu parles même de la Coupe Davis, rendu là, avec les résultats d'Alexis et Gabriel dans les dernières semaines, c'est sûr que non. C'est sûr que tu prends Félix. Mais, Colin, tu peux. Isa, ouais, tu voulais acheter quelque chose?
Albert Einstein avait déjà dit la folie de toujours faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Et je t'aborde de Hugues. Je trouve que il faut faire du changement. Je comprends que tu dois prendre ta faute. Tu as des enjeux, mais tu as besoin d'une étincelle extérieure pour relancer. Il y a le tactique, mais il y a aussi le mental, la confiance en soi. T'sais, je ramène encore là, on était à la Lever Cup, la façon qu'il a réagi, la façon qu'il était nerveux contre un... C'était un match en exhibition contre mon fils, qui est un ami. Il a clairement... t'as beau essayer de te convaincre, éventuellement, tu as besoin d'aide extérieure. T'sais, on le sait, en leadership, on le dit tout le temps, entourez-vous des gens complètes, différents. Là, je pense qu'il faut qu'il y ait un élément extérieur pour pouvoir s'aider à reprendre parce que oui, il mérite d'être dans le top 10, dans le top 10. On le voit, c'est un garçon qu'on aime, c'est un joueur qu'on aime voir avoir du succès. Et moi, ça me rend... Mon petit cœur de maman me dit, mais voyons donc, il ne mérite pas ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment qu'on peut shaker ça pour que ça change?
Isabelle, je suis content que tu reviennes sur la Coupe Lever parce que moi aussi, j'ai repensé à ce match-là et ça remet en perspective l'espèce d'accrochage qu'il y a eu avec mon fils. Dans un match, somme toute, plus ou moins important, mais il s'accroche tellement à tout, il a tellement besoin de victoires, même contre un 140e mondial, parce que c'est là qu'est mon fils en ce moment, dans un tournoi semi-exhibition avec peu d'enjeux, somme toute. Et ça montre à quel point il est quand même tendu. Là. Il lâche pas un moment potentiel pour se relancer et aller chercher une victoire. Donc, effectivement, c'est une situation au niveau confiance, au niveau mental, qui est extrêmement complexe pour lui en ce moment. Et ça aussi, c'est des aides extérieures qui pourraient peut-être l'aider. Il ne peut pas tout prendre sur ses épaules de jeune homme de 23 ans dans une situation comme ça. Ça fait beaucoup apporter quand même.
Oh, moi, je n'ai pas la même lecture que vous deux, par contre, sur ce qui s'est passé à la Coupe Davis, personnellement.
À la Coupe Laver.
À la Coupe Laver.
Ça s'en vient, la Coupe. J'ai hâte.
La Coupe Davis depuis ce matin, en tout cas. Et on ne révélera pas ce qui s'est passé hors d'onde, mais le petit Alex t'a mêlé là, par bout. Là. Fait que non, à la Coupe Laver, moi, je n'ai pas cette même lecture-là parce que moi, j'ai juste la lecture d'un gars qui est sérieux et qui veut gagner, peu importe l'enjeu, que ce soit un match d'exhibition, que ce soit un match hors concours ou que ce soit une finale d'un tournoi du Grand Chelem. Et Félix, c'est un gars qui veut gagner, qui a voulu gagner toute sa vie. Il se met beaucoup de pression. Je comprends que le tournoi est un niveau plus détendu qu'un tournoi officiel, mais je comprends Félix. Il a toujours été comme ça. Il avait 14 ans, puis il prenait ses matchs de junior au très, très, très au sérieux. Alors moi, je le vois plus comme... Ben là, on joue-tu sérieusement ou on joue pas sérieusement? Je le vois plus comme ça que comme un niveau de stress plus élevé qu'à la normale. Quoique, honnêtement, quand tu perds comme ça, c'est sûr que ton niveau d'angoisse, ton niveau de stress, il est... Surtout quand tu t'imposes peut-être un enjeu, un but d'être niveau de numéro un mondial un jour ou de champion de Grand Chelem, comme Félix peut très bien aspirer à le faire. Évidemment, quand tu perds semaine après semaine après semaine après semaine et que là, tu ne sors pas de cette disette-là, parce que même Indian Wells, on en parle là, on remonte à Indian Wells, mais avant Indian Wells, c'était pas. Il a eu un passage correct en début de saison en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais par la suite, ça reste compliqué pour Félix. Abraham, rapidement, avant qu'on aille à la pause, est-ce que tu es confiant que les choses vont se replacer? C'est la question que je pose semaine après semaine dans le cas de Félix. Ou est-ce que tu es en mode attente d'une étincelle?
Ben moi, je pense que l'entre-saison va être très important. Puis on va voir qu'est-ce qu'on va avoir en janvier, mais ça va être vraiment important. Puis je me place à la place de Félix. Moi, depuis le début de l'année, je joue dans une ligue échelle au Saguenay, puis j'ai pas gagné encore, puis c'est tout le temps serré. Puis je cherche la solution aussi, puis c'est difficile à trouver. Là.
Ah, ben peut-être qu'il va falloir que tu fasses un changement d'entourage. Peut-être qu'il va falloir.
C'est que j'ai pas de coach, j'ai personne autour de moi, je suis tout seul.
C'est pas il faut un entourage, hein. C'est pas un changement, ça, il faut un ça. Entourage.
C'est pas UDG ton coach?
Ah, j'essaie de l'appeler, mais il est beaucoup occupé. Hein.
Ah, c'est ça, hein, c'est ça. Quand tu m'appelles pour y parler de ton coup droit, il te raccroche. Il n'y a rien à faire avec ton coup droit. Il fait la célébration de Ben Shelton.
C'est ça, exactement.
On va en parler de Ben Shelton, d'ailleurs, après. Qu'est-ce que tu as dit, Isa?
Excuse-moi, on va laisser le côté tactique et à eux, puis nous, on va t'encourager, Alex, puis moi.
Oui, exact. On va en parler, je disais, la célébration de Ben Shelton. On va en parler après la pause parce que il va faire partie d'un match popcorn, comme on dit ici au podcast. Et il y a l'équipe de la Billie Jean King Cup qui est sortie. On en parle après la pause.
Le restaurant Monem de l'hôtel Montville vous ouvre ses portes tous les matins, du lundi au dimanche, et tous les soirs, du mardi au samedi. Vous pouvez réserver votre table à tout moment sur Open Table et découvrir leurs plats généreux inspirés de la gastronomie française. Anticipez vos cadeaux de Noël. Offrez un séjour à l'hôtel Montville, incluant un délicieux petit déjeuner et une place de stationnement au cœur de Montréal. Un moment parfait pour relaxer et prendre soin de soi. Découvrez les options de cartes cadeaux sur le site hotelmontville.com.
De retour au Radio Podcast sur la ligne, le Radio Podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale, disponible sur toutes vos bonnes plateformes de balado. Hugues, avant que je me lance dans les détails de la Billie Jean King Cup et de ce qui se passe à Shanghai, je fais la plug pour le podcast parce que encore une fois, on était de retour dans les classements top 5 au Canada et je me fais un devoir de le dire parce que c'est quand même, ça reste tout à fait spécial comme on est en français d'être aussi haut dans les classements canadiens dans la section tennis.
Top 5 la semaine dernière, 5e rang des podcasts, toutes langues confondues, je le répète, au Canada, devant les grosses pointures du circuit WTA Media, ATP Media. Donc, on peut être très fiers de toute l'équipe sur nos performances. J'en ai profité pour envoyer un petit mail au chef du développement international de Roland-Garros ce matin. Donc, on verra quelle discussion on pourrait entamer, là, parce que lui cherche à développer des nouveaux marchés. On performe aussi en France, vous le savez, on est déjà monté jusqu'à la 4e place en France. Donc, pourquoi pas étendre nos tentacules du côté français, sachant qu'on est évidemment un podcast francophone. On est dans plusieurs communautés et groupes aussi du côté de la France et de Paris. Et notre collaboration avec CourtsMag peut ouvrir des portes aussi de ce côté-là. Donc, oui, très content d'en parler. Merci à tout le monde qui nous écoute à la radio, en ligne. Le podcast va très bien en ce moment et va continuer de progresser en 2024.
Ben, si Louis Borfiga est dans le bureau du directeur de la Fédération française, ben pourquoi pas lui dire là, répondez à Hugues Léger.
Attention, il est consultant. Il fait attention, il ne travaille pas pour la fédération à temps plein. Il est consultant, il est en retraite, Louis Borfiga. Il voulait faire attention de ne pas froisser aussi ses amis canadiens. Mais il m'a mis en contact avec un ancien des jeunes mousquetaires français que je ne vous nommerai pas tout de suite avant qu'il me réponde. Mais bon, Louis Borfiga, effectivement, nous aide dans nos contacts en France.
Hey, un des anciens mousquetaires français de l'époque de Guy Lacoste, mettons?
Non, de René Lacoste. Non, on parle des jeunes mousquetaires.
Ah, OK. Les jeunes nouveaux. OK. Oui, évidemment, Henri Lacoste. L'équipe de la Billie Jean King Cup est sortie, Abraham. Et on a une surprise parce que, bon, Bianca n'y sera pas, mais Eugénie Bouchard va y être en compagnie de Rebecca Marino, notamment. Gabriela Dabrowski, évidemment, une des meilleures joueuses de double au monde, championne de Grand Chelem au dernier US Open. Et une fille, Abraham, que tu suis régulièrement, dont tu nous parles régulièrement dans tes chroniques, et de laquelle j'ai dit « Attention, gardons-la à l'œil, cette fille-là, dans les dernières semaines, Marina Stakušić, elle n'a pas volé sa place, mon cher Abraham. »
Non, exactement. Elle mérite cette présence-là à la Coupe Billie Jean King, parce que, rappelons-le, elle a été nommée... ses performances en septembre là, ont été soulignées par l'ITF, elle qui a récolté ses deux premiers titres professionnels sur le circuit. Marina Stakušić, qui... Moi, ça me surprend quand même aujourd'hui de voir cette annonce-là. Je suis très heureux pour elle. Ça peut lui donner encore plus confiance, avoir peut-être des matchs contre des meilleures joueuses, puis s'habituer justement à la pression de la Coupe Billie Jean King, jouer contre un grand public. Et ça va être vraiment intéressant à suivre, là, avec aussi Eugénie Bouchard qui est là, Gabrielle Dabrowski, Rebecca Marino et Leilani Fernandez. Toute une équipe, là. Bianca Andreescu est absente, mais ça paraît presque pas, là, avec toutes les joueuses qu'on a.
Mais c'est pas surprenant de voir Marina Stakušić. Ben, en fait, c'est surprenant si vous ne l'avez pas suivi dans les dernières semaines. Elle est sur une séquence de 11 victoires consécutives. Elle s'est retirée dans son dernier tournoi. Mais c'est une fille qui avait impressionné à l'Omnium Banque Nationale. On en a parlé en masse pour son match de qualification, à quel point elle avait été bonne contre une fille beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux classée qu'elle. Et ce n'est qu'une fille de 18 ans. Alors, c'est peut-être une fille dont on va parler beaucoup dans le tennis canadien dans les prochaines semaines. Commentaire sur cette équipe, Hugues, qui, ben, bon an, mal an, est quand même vraiment pas si mal dans les circonstances.
Écoute, moi, j'aime beaucoup cette équipe-là, malgré le fait que Bianca soit peu présente. Effectivement, vous l'avez dit, Stakušić, c'est une des joueuses en forme. Et Eugénie, dans une journée où elle a envie de vraiment performer, elle peut surprendre beaucoup de joueuses. Donc, tout ce petit monde se retrouve donc le 7 novembre en Espagne pour le round robin de la phase finale. Contre l'Espagne en premier lieu aussi. Donc, ça va être toute une rencontre. Mais j'aime beaucoup cette équipe-là et je suis confiant qu'on peut passer quelques tours. Et une fois qu'on a le momentum, qui sait jusqu'où on peut aller. Donc, belle équipe, là, cette sélection de Billie Jean King Cup.
Évidemment, j'ai nommé les joueuses surprenantes, là, mais vous pouvez tenir pour acquis également que Leila Fernandez va faire partie de cette équipe-là, évidemment. Isabelle, commentaire sur cette équipe. Est-ce que tu te sens en confiance également de ton côté? Est-ce que toi, tu as plus de réserves?
Non, mais en fait, je suis d'accord avec Hugues et Abraham. Je suis très contente et j'ai hâte de voir. Moi, c'est des parties en double qui m'interpellent. Bon, Eugénie qui a fait du pickleball, avoir amélioré certainement son jeu au filet, déjà que ça allait bien. J'ai hâte de voir, est-ce qu'on va la mettre avec Gabriella ou ça va être une Leilani aussi qui a eu des bons résultats au niveau du double. Fait que moi, j'ai hâte de voir ça. On le sait que c'est une partie importante. Plus, il y a des Olympiques qui s'en viennent hein, l'année prochaine. Fait que moi, je vois ça dans un an. Fait que ça va être très intéressant à suivre effectivement dans quelques temps, là, début novembre. Ça va être intéressant de voir comment elles vont s'en sortir. Mais je suis en confiance.
Ça va être compliqué quand même parce que le groupe, il est quand même très fort là, pour le groupe des Canadiennes. On est avec l'Espagne et la Pologne. J'ai pas vu au moment où on se parle si Świątek a confirmé.
Écoute, sa Alex, moi, je les informations.
Ah, tu les as? Bon, mais regarde.
Pour la Pologne, là, Świątek est absente. Donc, bonne nouvelle pour le Canada. Yes. Les joueurs qui sont là pour la Pologne, là, il y a Magdalena Freck. Puis les autres, on les connaît moins. Puis pour l'Espagne, par exemple, il y a Paula Badosa qui va leader le groupe avec aussi Sara Sorribes-Tormo. Mm. Donc, ça va être quand même une chaude lutte. Là. Ça va être bon,
Badosa qui n'a pas joué beaucoup récemment.
Ouais. Oui, exactement.
Et qui a peut-être le cœur brisé là, pour ceux que ça intéresse. Qui sait, là, on n'est pas les spécialistes du gossip du tennis, mais on essaie de se garder à l'affût. Mais c'est un groupe très fort, là, parce que même Magdalena et Fresh sont deux excellentes joueuses. Et Sorribes-Tormo avec l'Espagne, elle a une dent contre les Canadiennes. Elle rend les choses tout le temps compliquées contre les Canadiennes pour une raison que j'ignore. Là, elle joue toujours son meilleur tennis contre nous. Je ne sais pas si c'est parce qu'on le remarque plus, mais elle fait souvent des matchs accrochés contre les Canadiennes. Et ben écoute, c'est sûr qu'avec une fille comme Leila, elle aussi peut battre n'importe qui. Je veux dire, les autres équipes ça, regardent et se disent « Ouais, ce ne sera pas si simple que ça. Marino, Dabrowski en double. » Tu sais, Isa, tu fais bien de souligner le double. Il est une partie importante de ça. Mais on est dans un groupe relativement fort. Heureusement, on n'a pas les États-Unis dans nos pattes là, parce que les États-Unis ont regardé leur équipe et même sans Coco Gauff, ils sont particulièrement puissantes. Et on va garder un œil sur la Billie Jean King Cup. Ça serait bien le fun de voir les filles être championnes du monde, les femmes être championnes du monde après avoir vu les hommes tout rafler l'année passée. Mais c'est une équipe intéressante. Tennis Canada a sorti la nouvelle ce matin, en fait, là, lundi au moment de l'enregistrement. Alors, on va être intéressant de suivre ça. C'est une équipe qui a beaucoup de sens, mais le groupe, il est fort. On se fera une analyse peut-être un peu plus approfondie là, la semaine prochaine, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là.
Ces matchs-là ont lieu le 8 et 9 novembre, donc on a le temps de se préparer.
Ouais, hein. Exact. Et on reviendra avec plus de profondeur là, quand on se rapprochera du tournoi, on en fera une mise en bouche digne de ce nom. Allons faire un tour du côté de Shanghai, mon cher Hugues, parce que c'est le tournoi qui se joue présentement et il reste encore d'excellents joueurs en liste, dont la première tête de série, j'allais dire numéro un mondial, mais il ne l'est plus. La première tête de série, Carlos Alcaraz. Est-ce que tu le vois aller jusqu'au bout pour l'instant, mon cher Hugues?
Ben, il se passe beaucoup de choses intéressantes là, dans ce tournoi. Je voulais quand même souligner le retour de deux joueurs qui ont eu des saisons de misère. Je pense à Seb Korda et à Diego Schwartzman, qui ont deux grosses victoires ce week-end. Korda qui sort Medvedev dans un match incroyable. Le premier set, là, les gars, 7-6, gagné 8-6 au tie-break par Korda. C'est un des beaux sets que j'ai vu cette année. Il y a eu des points complètement fous pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, là, l'audience. Allez voir ça sur YouTube. Il y a des points tout à fait exceptionnels, spectaculaires à voir. Donc, 7-6, 6-2, Seb Korda qui gagne son match, qui est toujours dans le tableau, qui sort Medvedev. Et Diego Schwartzman qui sort Taylor Fritz. Beaucoup d'Américains qui performent bien sur ce tournoi-là. Tu as Eubanks, tu as Shelton, on va en parler un petit peu plus tard, qui sont toujours là. Donc, je suis content quand même de voir ces deux joueurs-là là, bien performés après une saison compliquée. Mais oui, Alcaraz qui vient tout juste de battre Dan Evans en 2-7. On sait qu'ils font toujours des bons matchs, ces deux-là, ensemble. 7-6-6-4, un match accroché, mais Alcaraz est en forme. Il voudra, évidemment, une demi-finale pour lui. Il y a une semaine, c'est peut-être pas ce qu'il souhaite comme résultat. Il vise de gagner tout le temps, évidemment. Donc, je pense qu'Alcaraz peut se rendre loin sur ce tournoi-là, mais plusieurs bons joueurs encore dans le tableau. Effectivement, on va parler de ce match entre Shelton et Sinner, parce que je pense que c'est cette partie-là là, du tableau là, qui va être vraiment intéressante à suivre.
Oui, Alcaraz, va avoir un bon défi là, sur les mains parce que son prochain adversaire, c'est Grigor Dimitrov. Et mine de rien, c'est pas un gars dont on parle beaucoup là, récemment, là, mais il connaît de bons moments, Grigor Dimitrov.
Très bonne saison, Dimitrov.
Oui, il connaît non seulement une bonne saison, mais il a battu, c'est lui qui a battu Rooney à Pékin la semaine passée. Il a fait un bon match contre Yannick Sinner, quand même, l'éventuel champion en quart de finale. Il avait fait les demi-finales au tournoi précédent à Chengdu. Il a fait un match accroché contre Zverev au US Open il n'y a pas si longtemps, demi-finale à Washington. Il connaît de bons moments, alors ce ne sera pas un match à prendre à la légère pour Carlos Alcaraz. Ça va être un match bien intéressant à suivre. L'autre match qui, moi, m'allume, mais là, pas à peu près dans le match qui s'en vient, c'est le match Yannick Sinner Ben Shelton. Ben Shelton qui est en train de devenir un des fan favorites, un des favoris de la foule, ça c'est certain, Hugues. Match Popcorn.
Ben, Sinner, qui est le joueur en forme du circuit, on le dit en ce moment, quatrième mondial au nouveau classement. Shelton, qui est 19e favori du tournoi, mais bon, un service incroyable. Quel joueur spectaculaire. Ça, c'est des joueurs qui sont bons pour le tennis, qui font que les gens vont aller regarder, même s'ils ne sont pas des fans pour tournoi après tournoi, parce que c'est juste spectaculaire. Il est expressif sur le terrain. Il laisse aller ses émotions. Que ça plaise à certaines personnes ou non, ses célébrations, moi, ça m'est égal. C'est bon pour le tennis qu'on voit avec Shelton. Très, très hâte de voir ce match-là qui est prévu pour mardi, donc entre Yannick Sinner et Ben Shelton.
Ce qui est certain, c'est que ça a plu à Novak Djokovic.
Oui, c'est ça.
Isa, tu voulais ajouter quelque chose?
Ben, en fait, ce que je suis contente, c'est que ça devrait être autour de 6h30 demain matin, mardi, vers 6h30, 7h. Donc, un bon petit café. Le popcorn, c'est peut-être un peu tôt, là, mais un bon petit déjeuner, regardez ça, ça vaut la peine avant d'aller travailler. Moi, je vais être certainement devant mon écran pour regarder ce duel qui s'annonce fort intéressant.
Ben moi, à cette heure-là, je vais être au gymnase, mais sur le tapis roulant, ben, il y a des télés. Alors, peut-être garder un œil sur le bon Ben Shelton et son service puissant contre Sinner. Ça va être un bon match, et honnêtement, c'est dur de gager contre Sinner, mais avec un service comme ça, tout est possible pour Shelton. Là, c'est pas un match si facile que ça à prédire. Bon, il reste quand même quelques autres matchs intéressants là, du côté de ce tournoi-là. Hubert Hurkacz est encore là dans ce tournoi-là. Casper Ruud est encore là dans ce tournoi-là. Il y aura Tommy Paul contre Andrei Rublev. Ça aussi, ça va être un bon match à suivre. Alors, on est au niveau là, de la ronde des 16 présentement. Oui. Là, alors, on va pouvoir faire le recap de ce tournoi-là la semaine prochaine. Alex, Hugues, tu veux ajouter?
Alex, ronde des 16, mais encore trois Américains dans le tableau. Je le souligne encore. Ça continue de bien aller pour le volet américain. Là, t'as J.J. Wolf là, qui était peut-être un peu moins attendu que les autres, mais quand même, c'est une bonne performance. Et Seb Korda, oublions pas qu'il est américain aussi, dans le bas du tableau, donc il prend la place de Medvedev là, dans le bas du tableau. Mais souhaitons-nous quand même une finale Alcaraz-Sinner, parce que c'est toujours tout un spectacle quand les deux se rencontrent.
S'il fallait que Sinner batte deux fois en deux semaines Alcaraz, aïe aïe, attachez vos trucs. Et pour en revenir sur ta statistique des Américains, je trouve que c'est d'autant plus décevant ce qui s'est passé à la Coupe Davis quand tu regardes que, ils continuent de performer. Ils avaient une bonne équipe à la Coupe Davis. Ils avaient une équipe pour aller jusqu'au bout et ramener le trophée à la maison qui a été tellement si souvent ramené par les Américains dans le passé. Ça reste une large déception ce qui s'est passé à la Coupe Davis il y a pas si longtemps. Alors, ça va être intéressant de suivre ce qui va se passer du côté de Shanghai. On pourra en parler, faire le débrief en guillemets du tournoi la semaine prochaine. Il faudra surveiller également la semaine prochaine ce qui va se passer du côté de Hong Kong. Et mon cher Abraham, Leila Fernandez aura un bon test sur les bras. Mais écoute, si elle peut aller chercher cette victoire-là, ça va être confiance pour la BD Jing King Cup un peu plus tard.
Ben oui, exactement. Ce matin, j'ai consulté les tableaux, tout ça, pour les Canadiens en action. Puis j'ai été surpris en voyant que Leilani Fernandez va affronter dès le premier tour à Hong Kong la première tête de série du tournoi, Victoria Azarenka. Ça va être un gros duel. On peut voir si Leila est en forme. Mais ça, je vais sûrement me brancher, là, peu importe l'heure que ce duel aura lieu.
C'est prenable quand même, Azarenka, pour Leila, Hugues.
Oui, Alex, c'est un tableau qui est quand même intéressant pour Leila. On a Azarenka, première favorite. Adad Maia, que Leila a battu à Montréal, on s'en souvient, en deuxième favorite. Elise Mertens, qu'elle a déjà battu aussi. C'est pas un gros tableau quand même. Donc, souhaitons que Leila puisse gagner ce premier tour contre Azarenka, parce qu'après, ça ouvrirait la porte à beaucoup, beaucoup de possibilités.
Mais Hugues, par la suite, au deuxième tour, elle pourrait affronter Mira Andreeva, la jeune russe qui a battu Leila à Madrid cette année, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas si facile que ça, mais oui, c'est plus ouvert que d'habitude comme tableau.
Ouais, elle a que 16 ans et à Pékin, elle a fait toute une victoire contre Krejcikova, rappelons-le. Elle a fait un match accroché contre Rybakina et elle n'a que 16 ans. Andreeva, gardez-la à l'œil, c'est une fille qui en met plein la vue depuis quelques mois déjà. Elle avait fait une ronde des 16 là, à Wimbledon un peu plus tôt, puis elle avait une fois de plus battu Krejcikova après s'être qualifiée. Là. Alors, c'est une fille qui a gagné beaucoup dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Elle a fait une belle performance également après s'être qualifiée une fois de plus à Roland-Garros. Alors, la fille de 16 ans, Mira Andreeva, la Russe de 16 ans, là, elle en met plein la vue. Et oui, Abraham, tu fais bien de le souligner. Ce sera tout un défi s'il fallait qu'elle passe le premier tour. Mais si tu bats Azarenka, bon, je pense que tu peux être confiant, mais tu l'as mentionné, elle a une fiche de 0-1 contre Andreeva. Si elle est chanceuse, elle va affronter Yastremska, la préférée à Eugénie Bouchard. Eugénie. Mais il reste que ça sera tout un défi. Mais oui, après, ça s'ouvre un petit peu là, pour Léla. Et qui sait, d'un tournoi à l'autre, on disait qu'elle connaissait une bonne saison. Un bon passage récemment, là, ça s'était replacé, disons, depuis Washington. Mais des défaites un peu plus tôt dans les tournois ici et là pour Léla. Mais là, elle est peut-être due pour connaître un autre bon tournoi. Alors, qui sait, on verra si la séquence va se poursuivre dans le cas de Léla Annie Fernandez. Hugues, il y aura d'autres tournois aussi, Hong Kong, Séoul et Zhengzhou, peut-être nous faire un rapide tour.
Rapidement, donc un WTA 500 à Zhengzhou en Chine avec Krejcikova comme première favorite et Garcia comme deuxième favorite qui semble connaître une bonne saison asiatique et un 250 à Séoul où on trouvera quand même Pegula en première favorite, championne de Montréal et Elena Ostapenko toujours dangereuse dans le bas du tableau. Ouais. Donc il y a presque toutes les joueuses sont actives en ce moment, donc c'est intéressant de voir cette tournée asiatique.
Ouais, c'est une période où c'est très éclaté dans le monde du tennis. Là, hors Grand Chelem, souvent, il y a beaucoup de tournois en même temps.
Il y a des très bonnes bourses à aller chercher, il faut quand même le dire.
Oui, en Asie, le passage asiatique, il est payant pour les joueuses, là, ça c'est certain. On va faire une courte pause et au retour, Tennis Canada reçoit un honneur bien mérité. Et Abraham va faire le tour d'horizon de ce qui se passe avec les autres Canadiens dans le monde du tennis.
Le restaurant Monem de l'Hôtel Montville vous ouvre ses portes tous les matins, du lundi au dimanche, et tous les soirs, du mardi au samedi. Vous pouvez réserver votre table à tout moment sur Open Table et découvrir leur plat généreux inspiré de la gastronomie française. Anticipez vos cadeaux de Noël. Offrez un séjour à l'Hôtel Montville, incluant un délicieux petit déjeuner et une place de stationnement au cœur de Montréal. Un moment parfait pour relaxer et prendre soin de soi. Découvrez les options de cartes cadeaux sur le site hotelmontville.com.
Retour au Radio Podcast sur la ligne, le balado officiel de l'Omnium Banque Nationale. Isabelle Étier, Tennis Canada cette semaine a reçu un honneur bien mérité. Et je te laisse en parler, j'en dis pas plus parce que je pense que c'est une reconnaissance internationale qui était, bien méritée, mais c'est un honneur important quand même.
Ben, oui, effectivement, Tennis Canada a remporté le prix or du programme Advantage All de l'ITF pour ses efforts visant justement à promouvoir l'équité des genres et du tennis. Mais avant de rentrer dans le sujet, je veux vous faire un petit préambule parce que je ne sais pas si vous saviez, mais le mois d'octobre au Canada, c'est le mois de l'histoire des femmes. T'sais, on va dire, on pense à les femmes, c'est le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Mais non, depuis 1992, le gouvernement a souligné et a célébré les réalisations faites sur le plan de l'égalité des genres au Canada. Fait que je trouve que c'est un beau lien entre les deux. Bon, cette année, au Canada, on veut célébrer la diversité au féminin et c'est important de le faire. Le mois d'octobre, c'est aussi deux journées importantes dans les journées internationales, les journées mondiales. Je ne sais pas si vous les connaissez, Hugues, Abraham, Alex. Je vous lance un défi là-dessus. Est-ce que vous connaissez nos deux journées très importantes, justement, au niveau de l'équité au mois d'octobre?
Moi, je n'ai pas la réponse. Il y en a tellement des journées comme ça là, aujourd'hui. Il y en a pour chaque jour, chaque élément ou presque. Alors, Isa, aide-nous.
Bien, en fait, il y a la Journée internationale de la fille, qui est le 11 octobre, donc c'est le mercredi 11 octobre cette semaine, et il y a la Journée de l'affaire de la personne, le 18 octobre. Là, vous allez me dire, c'est quoi cette affaire-là? En fait, c'est important, moi, je trouve, de connaître un peu notre histoire, comprendre où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on s'en va, puis redonner encore plus d'importance à ce prix-là que Tennis Canada a eu, c'est qu'en 1929, le plus haut tribunal d'appel au Canada a rendu une décision historique. Avant ce moment-là, dans la Constitution, le terme personne ne désignait pas une femme. Ce n'était que les hommes ou les personnes qui avaient un pouvoir décisionnel. À partir de ce moment-là, les femmes ont pu devenir, on les a inclus dans la charte, donc la personne devenait automatiquement, la femme pouvait, bon, malheureusement pas les femmes autochtones ni asiatiques, mais quand même, c'était une avancée grâce à 5 femmes d'Alberta. C'est des notions qui nous disent, quand on dit qu'on fait beaucoup d'efforts pour l'équité, on veut amener une égalité, bien, ça part de là, ça part de nos racines. Et bon, le 11 octobre, qui est la Journée internationale de la fille, décrétée par les Nations unies depuis 2011, permet de rappeler que l'égalité entre les filles et les garçons est l'une des clés de notre avenir collectif. Et c'est là qui est important. Pourquoi c'est si important, cette idée-là? C'est que dans le sport, c'est aussi dans notre société. On sait comment le sport va aider dans la société. Lorsque nos jeunes font du sport, lorsqu'on les amène, ça nous permet d'avoir un monde meilleur. Sur ce fait, laissez-moi vous donner quelques données sur les filles et le sport. On sait, justement, comme je vous le disais, qu'il y a beaucoup d'avantages sur le plan de santé, du bien-être, du succès scolaire et professionnel lorsqu'on fait du sport. À la base, quand on est une jeune fille ou un jeune garçon, les inscriptions sont à peu près égales. Et malheureusement, ça monte. L'écart se creuse vraiment en 9 et 12 ans. Là. Quand je regarde, là, mettons, à 9 et 12 ans, là, tu vas avoir 68 % des garçons qui vont faire du sport versus 58, quand à la base, c'est à 50-50. Là, plus tu vieillis, plus ça s'étire. Je vous l'ai déjà mentionné, une fille sur 3 va arrêter de faire du sport contre un garçon sur 10. C'est énorme. Là, je vous ramène encore là, le pourquoi c'est important de connaître ces statistiques-là, c'est que ça nous permet de comprendre pourquoi ce prix-là que Tennis Canada a remporté cette semaine est hyper important. Et ouais. Une des raisons qui explique là, justement le décrochage des jeunes filles lorsqu'elles vieillissent, bon, c'est souvent un manque de confiance en soi, l'image corporelle négative, le manque d'habileté, bon, l'absence, mais il y a aussi le sentiment que le sport n'est pas conçu adéquatement pour elles, qu'il manque de modèles et que comment c'est fait pour l'entraînement n'est pas adapté à eux. Alors, je vous amène justement là avec le programme de Tennis Canada, tous les efforts qui ont été mis en place dans les dernières années et particulièrement cette année. Donc, que le Tennis Canada remporte le prix or au programme vient prendre tout son sens et toute sa valeur quand on sait toutes ces données-là. On se dit, wow, au Canada, Tennis Canada a fait une différence en tout moins dans son sport. Bon, mentionnons que lorsque dans ces prix-là, il y avait plusieurs autres pays. Mentionnons l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui ont rapporté, eux, respectivement, l'argent et le bronze. Donc, on n'est pas tout seul. C'est quand même un enjeu planétaire. Et, bon, les initiatives, puis j'aimerais ça qu'on en discute ensemble, telles que la création de Jeux Cette Équité de Tennis Canada, qui est développée en partenariat avec la Banque nationale, a permis justement de faire évoluer l'équité des genres à tous les niveaux dans l'écosystème de Tennis Canada et les autres. Parlons-en, justement. Je ne sais pas si c'est lequel, toi, Hugues, qui t'a le plus marqué. Nous, on s'est rencontrés à ces deux mois avec Billy Jenkins qui est venu, mais c'est pas que ça, là.
Exact. C'est vraiment le fruit d'efforts constants depuis 2 ans. Je dirais que les programmes, effectivement, ont bien collé ensemble en 2023. Il y a un momentum qui est établi, mais ça commence par l'investissement de la Banque nationale. C'est un projet, le Game Set Equity, ça fait partie du programme ESG de la Banque nationale. Il y a beaucoup de sous qui sont mis derrière ça et c'est bien utilisé par Tennis Canada. Moi, je suis très content qu'ils gagnent ce prix-là aujourd'hui parce que c'est la preuve que leurs initiatives portent fruit. Elles sont reconnues à plusieurs niveaux et ça fait effectivement, Isabelle, tu le dis, plus d'un an et demi qu'on travaille sur ce projet-là. Moi, j'ai aidé Valérie dans la première phase là, du programme qui s'appelait Women's and Girls Advancement in Tennis l'an passé, qui a culminé par la présence de Billie Jean King à C2 Montréal, par des tables rondes avec des Bianca Andreescu, notamment à Toronto, avec beaucoup de gens du board de Tennis Canada. Il y a du vidéo qui a été produit, qui a beaucoup circulé pour ça il y a un an. Il y avait Valérie à Montréal avec Marie-Ève Pelletier, Alexandra Wozniak. Plusieurs efforts qui ont été faits au fil de l'année. Puis 2022 et cette année, ben, Game Set Equity est arrivé, Mental Time Out, les bourses égales qui sont annoncées pour 2027. Donc, plusieurs éléments extrêmement concret. Puis soulignons la nomination de Valérie comme directrice de tournoi. C'est aussi un élément important qui montre que Tennis Canada, walk the talk, comme on dit. Ils nomment des personnes, des femmes à des postes de très haute direction et c'est tout à leur avantage et tout à leur honneur. Et ça va rejaillir positivement tant au niveau du sport que de la confiance dans l'administration pour les filles d'avoir une carrière dans le tennis, sur le terrain, mais dans les bureaux aussi après leur carrière.
Ouais, non, oui, c'est super important. T'sais, on veut avoir des filles sur le terrain, on veut qu'elles jouent, mais on veut aussi une carrière après. D'ailleurs, permettez-moi de vous mentionner, vous irez lire ça, il y a un beau dossier sur les milléniaux dans la presse et il y a un beau profil de Valérie Tétrault, justement, qui explique, elle, comment qu'elle voyait son parcours et on apprend un peu plus à la découvrir. Puis, un autre point que j'aimerais souligner, c'est qu'on a beaucoup amélioré la représentation homme-femme au sein de la structure de direction de Tennis Canada. Oui, il y a les campagnes qui, d'ailleurs, Michael Downey a reçu la médaille d'or de l'Association of Canadian Advertisers cette semaine, justement pour la campagne « Fille 7 matchs » avec Bianca. Mais c'est aussi au-delà de sur le terrain, on veut de la représentation au niveau des structures des postes de direction. Puis, mentionnons l'embauche de Noël Van Lottum, qui sera la nouvelle entraîneur nationale en chef de tennis féminin. Elle remplace Sylvain Bruno. Mais, tu sais, on veut quelqu'un de compétent, mais moi, je trouve ça intéressant de voir une femme prendre les rênes de ça, comment elle va pouvoir poursuivre. C'est des grosses chaussures à chausser quand même. Là. Sylvain était un des grands entraîneurs, mais quand même, je trouvais ça très intéressant de le souligner.
On va essayer de le recevoir, Sylvain, dans les prochaines semaines pour parler de sa carrière avec Tennis Canada et de ses projets futurs, ça c'est certain. Je rappelle le prix remporté par Tennis Canada, qui est le prix or de l'ITF pour le programme Advantage All, qui avantage pour tous, qui reconnaît l'équité des genres et c'est le prix or. Bien, évidemment, c'est la plus haute distinction de ce prix-là. Tennis Canada va recevoir aussi 5 000 $ pour continuer d'ajouter à ces initiatives. Et je veux rappeler, Hugues, l'importance de l'implication de la Banque nationale dans ce projet-là, parce que c'est eux qui ont, d'une certaine manière, avancé.
C'est le moteur derrière tout ça. Même si Tennis Canada, je dirais, faisait figure d'exemple dans plusieurs fédérations du Canada en ce moment au niveau sportif, ils ont toujours été bons quand même, mais il y a eu une accélération suite à l'investissement de la Banque nationale il y a maintenant 2 ans et je trouve que le projet est très bien porté par Tennis Canada et toute l'équipe.
Et tu sais, le projet Jeux 7 Équité, c'était spécifiquement dirigé pour ça, aider aussi les plus de filles dans le monde du sport. Et là, on n'a même pas parlé de toutes les initiatives parce que c'est pas ce programme-là récompense juste ça, mais toutes les initiatives de santé mentale pour Tennis Canada, autant au niveau de ses employés qu'au niveau de la nouvelle structure de l'Omnium Banque nationale. Alors, Tennis Canada fait preuve de précurseur de leadership là-dedans et espérons, si je peux survivre, que les autres tournois vont suivre. Et t'en parlais, les bourses vont être égales également plutôt 2027. Plus tard. Là, c'est déjà annoncé. Alors, bravo à Tennis Canada. On est bien fiers, nous, d'être partenaires avec eux et de continuer à promouvoir aussi l'équité, la santé mentale. Et puis, on veut tous un monde meilleur. C'est difficile d'être contre la vertu. Et bravo à Tennis Canada qui fait preuve de leadership dans ce dossier-là. Et bravo à nouveau pour avoir reçu la mention d'or de l'ITF pour le programme Avantage pour tous. Alors, bravo à Tennis Canada une dernière fois. Parlant de Tennis Canada, mon cher Abraham, il y a quelques représentants de Tennis Canada ou de joueurs canadiens qui sont sur la route. On a parlé de Félix, mais ton mandat, c'est de suivre peut-être les joueurs dont on parle un petit peu moins autour de la planète. Et je te lance un crachoir, mon cher ami.
Parfait, merci Alex. Là-dessus, on va parler d'Alexis Gallardo encore, notre favori. Il a fait une demi-finale la semaine dernière à Tiburon en Californie. Ouais. Mais je tiens à souligner sa performance en quart de finale où il a sauvé des balles de match et il est sorti avec la victoire. C'est vraiment le fun d'avoir des expériences comme ça pour le futur. Et cette semaine, il se dirige encore en Californie. Maintenant, c'est à Fairfield où il est la 5e tête de série. Et il y a aussi 2 autres Canadiens qui jouent là-bas, Vacek Pospisil et Braden Schnur, donc un tournoi de Challenger à surveiller. Là, c'est tout le fun des Challengers. Puis on peut aussi avoir le streaming gratuit sur le site du Challenger. Donc, si vous voulez aller voir les matchs, là, c'est hyper facile sur Internet. Par la suite, dans un autre Challenger, cette fois-ci en Europe, à Bratislava, il y a Gabriel Diallo qui va jouer. Et c'est un gros Challenger, un Challenger 125 000. Et dès le deuxième tour, Gabriel Diallo pourrait affronter Dominic Thiem. Donc, ça pourrait être un chaud duel. On sait Diallo avec la Coupe Davis dernièrement est assez en forme et fait des bons matchs. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et ça m'amène justement à vous parler du côté des femmes. Est-ce qu'il y en a en action cette semaine? Tout ça, c'est un peu plus relax. mais ça arrive bientôt, le Challenger Banque Nationale de Saguenay, qui commence dimanche prochain, là, justement, avec beaucoup de Canadiennes, comme chaque année. En ce moment, c'est les joueuses confirmées dans le tableau principal. On a Catherine Sebov qui voudra refaire la finale comme l'an dernier. Marina Stakušić, on en parlait tantôt, une très bonne joueuse qui a juste 18 ans. Là. En septembre, 2 titres professionnels, ça va être à surveiller. Et aussi Victoria Mboko qui va faire sa première apparition à Saguenay, qui elle aussi est une joueuse prometteuse pour le Canada. Et Cadence Brace. Cadence Brace a aussi reçu un laissez-passer qui a été confirmé pour le tableau principal. Là. Il y a d'autres annonces qui vont être confirmées à l'approche du tournoi, mais ça va être vraiment excitant. Là. Et moi, je vais être sur le terrain pour sur la ligne. Là. J'ai hâte de vous partager ça.
Ah oui, on t'a donné l'autorisation d'y aller, Abraham?
Oui, oui, oui.
Ben non, c'est sûr qu'on te donne l'autorisation. Tu seras nos yeux, tu seras notre caméra et notre journaliste sur place.
Oui. Ce qui est le fun, Alex, je le souligne, c'est qu'Abraham devient un joueur régulier de l'équipe des communications de Tennis Canada aussi. Donc, c'est un mandat spécifique pour le Challenger. Mais bon, on voit la progression aussi de la carrière d'Abraham à travers ce qu'on fait.
Je travaille fort.
Et Isaac, on parlait d'Alexis Galarneau, peut-être que tu veux ajouter parce que tu nous as laissé une petite note là, dans notre private chat, comme on dit.
Bien, en fait, quand on parle de programme justement de Tennis Canada, sa campagne sur la santé mentale, Alexis est un de les visages. On parle tantôt même au niveau de la Coupe Davis, comment il est. Sa force de caractère, il l'abandonne jamais. Tu sais, tu l'as dit, Abraham, il a sauvé plein de balles de bris. On le voit, il est dédié. C'est important. Tu sais, chaque balle est importante au tennis, qu'on soit un joueur de tennis amateur, professionnel, semi-professionnel ou qu'on essaie. C'est toujours d'y croire. Puis Alexis représente ça. Puis fait que je trouve que Tennis Canada a bien choisi son visage pour faire la promotion justement.
Ce qui est important, Alexis, il semble vraiment s'amuser sur le terrain puis sur ses médias sociaux, tout ça. Il partage beaucoup. Hein. Même s'il a perdu en demi-finale, il a eu une super belle semaine et c'est vraiment beau à voir. Là.
Il connaît vraiment de bons moments, Alexis Galarneau. Il est vraiment sur la pente montante et on ne pourrait pas être plus fier de lui. Là. No cheering in the press box, mais cheering in the press box. On va le dire comme ça.
Il mérite bien.
Ben oui. Puis regarde, on ne se cachera pas. Là, nous, c'est le chouchou de l'émission. Il est toujours prêt à participer avec nous à l'émission. Il est toujours hyper généreux. Et vraiment, s'il fait après sa longue carrière dans le monde du tennis où il aurait été top 10 mondial, pour avoir une belle carrière dans le monde de la télé. Ça, c'est certain parce qu'il s'exprime très bien. Tiens, Abraham, puisque tu es là et tu n'es pas là avec nous souvent à l'émission tout le long de l'épisode et que Nicolas n'y est pas, je vais te donner le lourd mais important mandat de terminer l'émission comme il se doit. À toi, mon cher Abraham.
C'est une belle surprise, ça. Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, Isabelle. Bon tennis, tout le monde.